Hétéroland.
Hétéroland. Hétéroland. Hétéroland. Hétéroland. Hétéroland.
C'est bien, mais c'est peut-être un peu trop.
C'est un gentil garçon. Il croit bien faire.
Les hommes sont bêtes.
Nous allons aller chercher le sperme.
C'est quand même pas sorcier, c'est mon clitoris, pas le sphinx.
C'est le moment de libérer la chatte.
Mais il lui faut affronter l'aide du réalité.
Marié, famille, enfant, caravane, à la mer.
Salut, vous êtes sur le 89.5 de Radio Dio. Et c'est l'heure d'écouter Hétéroland. Hétéroland, c'est une émission féministe qui parle de relations, qui parle des normes de genre et qui parle d'hétéronormativité.
Hétéronormativité. Ensemble de pressions qui poussent à se conformer aux normes de l'hétérosexualité. À l'échelle individuelle, cela pousse à correspondre aux normes de son propre genre. Dans les relations, cela pousse une des personnes à adopter un rôle correspondant au rôle féminin et l'autre un rôle correspondant au rôle masculin, ce qui maintient une répartition des rôles et des tâches basée sur une binarité de genre, et aussi sur une hiérarchie. Cela fonctionne dans les relations hétérosexuelles, non-hétérosexuelles, des relations amicales, familiales. À l'échelle de la société, les institutions sont discriminantes envers les personnes ne correspondant pas à l'hétéronormativité, du fait de leurs orientations sexuelles, identité de genre ou schéma relationnel.
Ce soir, c'est une émission spéciale entre parenthèses. Bon, en ce moment, et puis pendant le confinement, il y a beaucoup de trucs qui ont été entre parenthèses, et bah, c'est la sensation que j'ai concernant ma propre existence. Et puis certaines de mes activités, certaines configurations relationnelles. Il y a un état d'exception, un suspens, un flottement. Il y a tout qui est devenu inhabituel et il y a une distance avec la familiarité des choses qui a émergé. Il y a la perception qui a pu bouger aussi. Et bon, à part ce qui se passe dans ma petite âme et aussi tout à fait lié à ce qui s'y passe, en fait, en même temps. On sait que les moments d'exception et ceux qui sont construits et encadrés comme tels par l'État, c'est quand même un beau foisonnement de trucs de l'horreur, un bon prétexte pour faire passer des lois liberticides, pour l'explosion des violences policières, celles des violences conjugales, hein, dans le cadre des relations. C'est une super période pour la stigmatisation du comportement des classes populaires, hein, et pour que les privilégiés de tout poil assoient encore plus leurs privilèges. Mais bah, je vais pas m'attarder là-dessus, il y a d'autres personnes qui en parlent déjà vraiment très bien. Juste je vous renvoie à un article de Françoise Vergès sur le confinement, qui est en ligne sur le site de la revue Contretemps. Je vous renvoie aussi à un article de Jules Falquet sur le confinement également. Vous pouvez aller regarder tout ce qui concerne la loi N sur le site de la Quadrature du Net. Vous pouvez lire des trucs sur les difficultés d'accès à l'avortement dans cette période. Bon voilà, c'est pas la teuf. Il y a aussi un petit côté, la vie en moins bien dans cette période parenthèse. Parce que les contraintes, qu'on les juge arbitraires ou pas, c'est toujours un petit peu déprimant, sans compter la peur de la maladie, de la mort et du totalitarisme. Et il semblerait que, en plus, hein, comme si l'ambiance elle n'était pas déjà assez pourrie, les types relous soient particulièrement en forme. Alors, déjà, pendant le confinement, ils étaient super en forme. Mais bon, hier, je suis allée me promener. Voilà, parce que j'ai droit, en fait, un peu. Je croyais. Voilà. Et en me promenant, je me suis fait accoster par un type qui s'était arrêté en bagnole à l'entrée du parc pour pisser. Et il me parlait, il était juste à l'entrée du parc, là il me parlait en tenant sa teub pendant que je passais. Alors au début il me disait juste qu'il était désolé de pisser là, bon ok, Et ensuite, toujours en tenant sa tub et en pissant, hein, il me demande « Ah, on pourrait pas discuter, allez, et même après ?» Alors, et moi en plus, j'étais au téléphone, hein. Mais c'est juste à quel moment il s'est dit que m'accoster comme ça, c'était pertinent. Enfin voilà, ça va tout à fait dans le sens que ce genre d'action, c'est pas du tout pour draguer, il n'y a pas de but de soi-disant séduction, c'est vraiment juste pour faire chier. Enfin, moi j'imagine mal m'arrêter au bord d'une route pour uriner, en profiter pour brancher des inconnus. Mais bon, ça doit être parce que, étant une meuf, j'ai un minimum de conscience de moi-même et qu'on m'a bien rentré dans le crâne ce qui est sexy pour moi ou pas. Ça doit être ça. Ah, l'inconscience candide des relous quant à eux-mêmes. Comme je l'envie. Enfin bref, voilà. C'était la première parenthèse de l'émission. Et puis je vais l'étirer un petit peu encore. Bon, se faire emmerder dans la rue, ou avoir peur de se faire emmerder dans la rue, c'est souvent. Il y a des périodes pendant lesquelles c'est quotidien, selon son âge, selon si on sort, à quelles heures, selon l'ambiance sociale générale. Bon, c'est quelque chose qui est quand même super courant. Et dans une vie de meuf, dans la mienne en tout cas, bah, y a vite une accumulation, un foisonnement de ces moments de gêne, de colère, de peur. Et on n'en parle pas souvent. En tout cas, pas depuis longtemps. Et quand j'étais ado, ça m'arrivait à chaque fois que je sortais du lycée où j'étais interne pour aller en ville. Et il n'y avait pas de mots pour décrire ça. Fallait dire drague ou rien du tout. On ne connaissait pas encore le terme harcèlement de rue. Qui d'un côté, parenthèse, est problématique pour pas mal de raisons. Parce qu'utilisé par l'État pour renforcer des politiques racistes. Et aussi parce que quelque part, ce terme, il renforce l'idée que les meufs sont des perpétuelles victimes. Mais bon, ça c'est une autre histoire aussi. Enfin, au moins, il y a un mot à mettre sur ce truc. Et ce qu'il y a de particulier avec ce genre d'interaction, de harcèlement de rue, c'est que n'importe comment qu'on y réagisse, elles font chier. Elles convoquent possiblement une gigantesque panoplie d'émotions négatives. Et des fois, on a honte. On a honte que ces types ils se soient permis de nous parler comme ça, parce que bah... forcément, ça doit vouloir dire quelque chose de moi, que j'ai l'air de le chercher, que je vaux rien pour qu'un type il me parle comme ça. Il y a aussi la honte de pas répondre assez bien, assez fort, ou au contraire de pas répondre assez calmement. Enfin bref, tu perds à tous les coups, ça pousse pas à en parler. Et donc pendant longtemps, j'en parlais pas. Le discours là-dessus, il n'existait pas vraiment dans ma tête. Juste, ça arrivait, je réagissais et pff, voilà, passer à autre chose. Ça fait des milliers de parenthèses de burk qui émaillent mon existence, qui ont impacté mon humeur, comment je me sentais dehors. Des fois, ça a impacté mes trajets de balade dans la nuit. C'est des trucs qui n'existent pas vraiment, mais bah, qui finissent par forger comment c'est la vie, en fait. Au bout d'un moment, il y a eu des mots pour en parler, donc. Alors je l'ai fait, beaucoup. Mais assez vite, je me suis rendu compte que c'était plus dur d'en parler aux mecs cis. Oui, à cause de leurs réactions à incompréhensions diverses. Bon, je l'ai fait quand même. Pendant un certain temps, j'ai envoyé un texto à un amoureux à chaque fois que je me faisais emmerder dehors pour qu'il se rende compte. Ça a marché, mais du coup, ça me faisait double taf. Je devais gérer les relous et écrire des messages. Et la plupart du temps, j'en parle pas ou peu aux hommes. Spontanément, je vais pas parler du type qui vient de m'agresser dans la rue alors que ça vient d'arriver, que j'aurais besoin qu'on m'écoute, ou alors que j'aurais besoin de dramatiser, de rigoler de sa connerie ou du truc marrant que j'ai réussi à lui dire. Je leur en parle peu, parce que souvent, demander du soutien émotionnel à un type, ça provoque des réactions de rejet, un déni des émotions, qui est pas mal intentionné, hein, mais bon, voilà, j'ai pas besoin de gérer ça en plus. Et puis il y a une autre raison, j'en ai déjà parlé à des amis proches, qui ont réagi en m'engueulant parce que j'étais pas sympa, et que je devrais comprendre que les types étaient juste maladroits, et toi tu les agresses, les pauvres, c'est toi qui es agressive. La la la. Bon, et souvent aussi, j'en parle pas aux types à cause de la honte de moi, de la honte de me faire emmerder. J'ai peur que les types que j'apprécie, ils voient cette partie de moi et que ça change leur perception. Parce que bah, moi aussi, je suis une de ces filles qui ont des problèmes, des histoires, qu'on se permet d'emmerder. Moi aussi, je suis une victime et une meuf dont on considère pas la valeur. Et tout ça, c'est de la projection, je pense pas du tout que leur raisonnement y suivrait vraiment ce chemin-là. Mais je n'ai aucune garantie que mon récit n'aura aucun impact négatif, inconscient ou caché sur la façon dont ils me perçoivent. Donc il y a des bouts de ma vie qui sont quasi inaccessibles au type 6 de mon entourage. Des choses que je garde entre parenthèses, parce qu'elles briseraient l'image qu'ils doivent avoir de moi. Et essayer d'ouvrir la parenthèse, ça a déjà eu des conséquences désagréables. En fait, je suis comme ces meufs d'il y a quelques décennies qui devaient pas parler de leurs règles, quoi. Voilà. Bon, pour en revenir à cette idée de parenthèse. Déjà dans un texte, la parenthèse, c'est une signalisation qui met à part un bout du texte, à la fois à part et puis en retrait, qui le signale comme secondairement important. Ce bout de texte, il est mis à part et en retrait dans le même mouvement. Il est donc hors de la norme parce que séparé du corps du texte, différent et moins important. On va écouter un bout de chanson interprété par Joyce Jonathan, qui apparemment est une chanteuse assez connue, pour nous aider à mieux comprendre ce que c'est qu'une parenthèse.
Une parenthèse qui se ferme comme une guerre qui s'achève. C'est la hache qu'on enterre parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Une parenthèse, c'est pas dit, mais c'est souvent nécessaire. Pour expliquer une idée, pour comprendre un mystère. Une parenthèse, c'est un signe, c'est tout ce qu'on peut donner. Un coffre-fort qu'on remplit pour plus rien laisser traîner. Une parenthèse, c'est pas long et c'est souvent pas assez. C'est juste ce qu'il faut de bon pour pouvoir y repenser. Une parenthèse, c'est toi, c'est moi, c'est nous deux. C'est nos deux bras ensemble qui forment un cercle amoureux. C'est le début d'un nouveau refrain. Une bulle qui touche à peine nos mains. Deux corps qui ne forment plus qu'un rêve. Une parenthèse, un écrin, un couloir secret.
Voilà, j'espère que ça vous a aidé à capter l'essence de la thématique d'aujourd'hui. Les meufs, elles sont en quelque sorte, entre parenthèses, dans les sciences et puis dans l'histoire. Elles sont mises à part dans la recherche, alors en général, parce que il y a ce truc de « c'est des histoires de bonnes femmes ». Dans la recherche, tout est masculin, le point de vue, une majorité de chercheurs. Et ça fausse la récolte d'informations, ça fausse certains protocoles, certaines façons de récolter les données. Et ça donne une vision partielle et partiale des événements et des données dans les domaines où on étudie la vie. Pour prendre un exemple sur l'impact du fait que les sciences soient dominées par les hommes en général, on va écouter un extrait d'une vidéo d'une meuf qui est archéologue. C'est sur la chaîne YouTube « C'est une autre histoire » et c'est le début de la vidéo qui s'appelle « Les erreurs sexistes de l'archéologie ».
Ça Fin 19e siècle, les archéologues font des fouilles du côté de Menton et dans la grotte du Cavillon, on trouve un squelette d'un homme préhistorique qui daterait d'il y a 24 000 ans au Paléolithique supérieur. C'est un squelette bien robuste, il est enterré avec plein d'ornements, des trucs assez précieux, etc. On se dit, waouh, ça doit être quelqu'un de très important, ça doit être un chef. Et plusieurs découvertes de ce type se succèdent. Mais un jour, on tombe sur une tombe... On découvre une tombe de ce même type en Italie, avec un squelette bien robuste, etc., machin. Mais là, par contre, en y regardant plus près, il y a un fœtus dans le ventre du défunt. Cool. Du coup, c'est peut-être pas un mec. Alors les paléontologues reprennent tous les squelettes des autres tombes de ce même type et les regardent beaucoup plus en détail, les analysent d'une manière plus fouillée, avec d'autres techniques, et ils se rendent compte que c'est des femmes. Il semblerait qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas du tout un squelette beaucoup plus gracile et plus fluet que celui des hommes et qu'il y avait même très peu de dimorphisme sexuel, à tel point qu'à première vue, on s'y était trompé. Donc aujourd'hui, le fameux homme de Menton, qui se trouve au musée de l'homme, s'appelle la Dame du Cavillon. Le critère de gracilité du squelette nous a induit en erreur, et il semblerait qu'à cette époque du paléolithique, où on avait besoin de l'activité des femmes, bah, elles n'étaient pas des petites choses fragiles qui restaient au foyer, et la force était beaucoup plus partagée.
Et donc, les femmes, elles sont entre parenthèses dans l'histoire de l'humanité qui est écrite par d'autres qu'elles. Et dans les périodes parenthèses de l'histoire, elles sont plus encore mises de côté. Bon, je parle des femmes, mais il y a aussi les groupes minorisés en général et les minorités de genre. Mais c'est encore moins connu et documenté du fait d'ajouter la marginalité au fait d'être dans une position sociale désavantageuse. Donc les premières à ramasser et aussi à ramasser le désordre causé par d'autres, ce sont les meufs. Et pour parler de ça, je vais vous lire un extrait d'un article paru dans la revue Ballast. C'est un article qui parle des meufs pendant la guerre d'Espagne. Alors ce sont des personnes qui sont interviewées. Donc c'est un extrait d'un entretien avec Susanna Arbizu, qui est documentariste, et Maëlle Maugendre, qui est historienne. Et ce sont deux meufs qui ont participé à l'ouvrage collectif Libertarias, qui est paru en 2017 aux éditions NADA. Et donc c'est un bouquin qui rend compte de la spécificité de l'engagement des femmes anarchistes espagnoles pendant la guerre civile qui a été remportée par Franco. Voilà, donc c'est une interview de deux personnes qui ont participé à cet ouvrage collectif. Se pencher sur le vécu des femmes, de tout temps et en tout lieu, c'est se confronter à une absence criante de source, à des silences lourds de signification. Mais les femmes ne sont pas les seules concernées. Toutes les populations considérées par ceux détenant le pouvoir comme étant subalternes, les serfs, les esclaves et les femmes donc, n'apparaissent pas dans les documents officiels qui ont longtemps été les sources privilégiées pour écrire l'histoire. Cette invisibilisation des femmes s'explique en partie par une écriture genrée des événements. Les archives sont majoritairement masculines, c'est-à-dire produites par des hommes, sur des hommes et conservés puis analysés par des hommes. La question d'une histoire toujours racontée au masculin relève bien évidemment du fait que ce sont les hommes qui ont toujours eu la parole. Redonner cette parole aux femmes, a posteriori, est donc un réel défi. Si la partition des femmes, mais aussi de toutes et tous les invisibles de l'histoire, celles et ceux à qui l'on dénie toute modalité d'action politique parce qu'elles ne rentrent pas dans les cadres de pensée habituels, n'est jamais mise en lumière, alors on ne facilite pas la poursuite d'actions, de tentatives politiques. Taire des manières de faire, c'est supprimer toute mémoire des gestes, toute histoire de la contestation. Nos actes se nourrissent du passé, de ce qui s'est fait, de ce qui s'est tenté, ou même de ce qui a raté, peu importe. D'où l'importance de documenter les luttes inédites, de changer nos points de vue historiques pour admettre dans nos champs de réflexion des expériences autrefois passées sous silence, pour créer une généalogie des actions au féminin, pour créer du collectif, quitte à traverser les siècles, passer par la collecte de témoignages par exemple, pour redonner de la voix à ces actions. Et si jamais c'est trop tard, pourquoi ne pas les imaginer ? Pour nourrir les expériences à venir, pour créer un écho, pour se sentir plus forte, accompagnée par toutes celles qui ont tenté par le passé d'agir. Mais si dès lors, les scribes de l'histoire, garants majoritairement masculins d'une histoire à sens unique, refusent d'apposer à ces récits une validation institutionnelle, transformons-les en fiction. L'important est que ce texte soit performatif, qu'il nous porte et nous pousse à agir. Et maintenant, on va parler de ce que c'est de se sentir comme une parenthèse et du statut de féminité marginale. Pendant le confinement, j'ai passé plein de temps à zoner sur Internet. Ouais, pas que pendant le confinement. C'est pas comme si c'était un truc inhabituel pour moi non plus, mais bon, bref. Internet, souvent, s'est mis en opposition avec la vraie vie. Bien que je trouve ça assez contestable, pour plein de raisons auxquelles vous avez sûrement déjà pensé et réfléchi, mais bon, on va dire qu'Internet est une zone de la vie que l'on sépare volontiers du reste de nos existences, dans laquelle il est facile de faire exister des sphères à part, et qui est pas mal dévalorisée en tant que partie de l'existence. Donc, ça s'apparente à une parenthèse. Et bon, voilà, sur Internet, on a entre autres les sites de rencontres. C'est un sujet récurrent quand on parle de relations. Et bon, en parlant de trucs récurrents, il y en a un dans les messages que je reçois qui se recoupe avec des trucs entendus, donc IRL, dans la vraie vie, et qui me donne l'impression d'incarner une sorte de parenthèse sexuelle. Ce qui est pas forcément gênant, hein. Mais en fait, si, des fois. Parce que je reçois beaucoup de messages du style... Je caricature, mais c'est plus ou moins le contenu des messages. Hein. Tu as l'air bizarre. Ça m'intéresse de coucher avec toi. Par exemple, bah, je sais pas, j'ai reçu vraiment beaucoup de messages où on retrouve les mots atypiques, non conformes. Ça revient vraiment souvent, et j'ai appris à me méfier de ce genre de qualificatifs venant de types qui ne me connaissent pas et qui cherchent à interagir sexuellement. Et je me méfie de ça pour pas mal de raison. Alors, quand on s'écarte de façon effective des normes de féminité et ou de certaines normes relationnelles, on se retrouve exposé à de la stigmatisation. Le fait de sortir de la catégorie meuf comme il faut, ça rend marginal. Ça a des effets sur notre légitimité, sur notre valeur perçue en tant qu'être humain par nous-mêmes ou par les autres. Et ça a même des effets sur notre sécurité. Hein. On se retrouve surexposé à des comportements abusifs, voire à des agressions physiques. La marginalité, elle surexpose à la violence et aux discriminations de façon générale. D'autant plus si on appartient à la base à une catégorie sociale opprimée. Donc la marginalité, elle fragilise de deux façons. Elle prive de certaines ressources, comme le confort social, le sentiment de légitimité et de sécurité. Et elle expose à des comportements actifs, discriminants, irrespectueux. Les deux éléments se confortent et se renforcent mutuellement. Alors, la locution « fille pas comme les autres », elle peut désigner des femmes qui ont des caractéristiques masculines autres que le comportement sexuel, qui sont comme des bons potes. Là, la marginalisation, elle se fait de manière différente, parce que le rapprochement d'une femme avec une identité masculine, elle va plutôt, dans un premier temps, la valoriser. Ça s'explique par une grande valorisation de ce qui est masculin en général. Après, c'est pas forcément aussi simple pour la meuf concernée par la valorisation, par l'attribution de caractéristiques masculines, parce que cette valorisation contient en elle-même une dimension misogyne. Se féliciter d'être considérée comme masculine, quelque part, ça signifie que le masculin, c'est supérieur au féminin. Donc ici, j'ai plutôt parlé des meufs qui s'écartent des normes de par leur sexualité, leur vie affective. les filles pas comme les autres, c'est une espèce de version sournoise de les filles comme ça. Mais c'est celle qu'on aime bien, celle avec qui on a envie de coucher ou alors d'avoir une relation. Elles sont pas seulement menacées d'une exclusion ponctuelle de la catégorie femmes respectables, comme le sont toutes les femmes. Elles s'écartent de façon effective de la norme par certaines de leurs pratiques. Alors, les critères de marginalité féminine, ça va être... donc on va désigner les femmes hors normes quant à leur sexualité, en s'appuyant sur plusieurs critères. On va avoir d'abord le type de relation entretenue. La non-exclusivité, la sexualité hors du cadre amoureux, le célibat, tout ça. On peut s'appuyer sur un concept de femme non liée qui a été élaboré par Nathalie Hainich. Ça désigne les femmes qui ne sont pas sous la protection d'un homme et qui apparaissent donc comme des cibles potentielles. Ensuite, donc ça c'était les modes relationnels. Le deuxième critère, on va avoir l'orientation sexuelle, donc le lesbianisme, la bisexualité. Avoir une sexualité sans les hommes ou potentiellement sans les hommes, ça expose à des discriminations et des violences. Pour la bisexualité, il existe un soupçon spécifique de vie sexuelle débridée, d'infidélité. Voilà, ensuite on a le type de pratique. Par exemple le BDSM, le sexe à plusieurs, toutes les pratiques qui sortent des normes du moment, ça peut être mouvant, voilà. Et ça peut caractériser les femmes comme marginales. Et bien sûr, autre critère, on a l'exercice du travail du sexe. Donc la pornographie, la prostitution, le striptease, qui, bien sûr, mais dans une catégorie de féminité marginale. Un seul critère suffit pour être marginalisé, mais ils peuvent se cumuler, se croiser. La condition féminine, c'est un facteur très important concernant le rôle social vis-à-vis de la sexualité. Le bénéfice de certains privilèges comme la blanchité, l'appartenance à une classe sociale élevée, le fait de rentrer dans les critères de beauté conventionnelle, être mince, blanche, reconnue comme belle, ça peut atténuer les stigmates et les effets néfastes sur la vie, mais pas toujours. Ça dépend de chaque situation, de chaque interaction, de chaque personne. On a pu être marqué par cette catégorisation ou sa menace et s'auto-attribuer la catégorie de marginal, même s'il n'y a pas de stigmatisation sociale de la part d'autres personnes. Ça peut arriver ponctuellement, mais ça reste très rare que les autres stigmatisent pas ses comportements. Mais bref, même s'il n'y a pas de stigmatisation, la conscience de sortir de la norme, elle a un impact sur le psychisme et l'estime de soi. Donc les effets d'appartenir à une catégorie marginalisée, c'est la fétichisation et l'objectification en ce qui concerne la sexualité féminine. Donc l'objectification, ça consiste, comme son nom l'indique, à considérer une personne comme un objet, hein. Merci Capitaine Constat. Et c'est-à-dire que la personne objectifiée, elle est appréciée et perçue en fonction de la satisfaction qu'elle apporte et de son utilité à l'autre. Donc en matière de sexualité, elle est considérée surtout en fonction du plaisir qu'elle peut procurer à l'autre. Et son ressenti n'est pas pris en compte, elle est plutôt un moyen. L'objectification, elle peut être partielle et ne concerner que l'aspect sexuel d'une relation. Ça arrive quand le partenaire nous témoigne de l'affection, de l'empathie, de la considération. Mais lors des rapports, tout ça cesse soudain, souvent à cause de l'influence des normes genrées en matière de sexualité. L'objectification sexuelle des femmes, elle est très encouragée par certaines normes en matière de sexualité. On peut penser aux pressions exercées sur les femmes pour fournir du sexe aux hommes, ou au fait que leur corps soit soumis au jugement en permanence. L'objectification, elle prive d'empathie envers la personne concernée, et ça mène à négliger le plaisir féminin, alors le vrai, pas juste celui qui va flatter l'ego du mâle, mais aussi à pas trop s'intéresser à ce que la personne veut ou pas, à pas trop faire attention aux signaux verbaux ou non-verbaux de consentement et d'enthousiasme. Bref, au bout du continuum, l'objectification sexuelle, ça conduit à des actes de violence sexuelle. Toutes les femmes, les meufs, les personnes assignées meufs, sont objectifiées sexuellement dans le regard social, mais les femmes marginales sont plus fragiles à cause de la dévalorisation et de la délégitimation qui les cible. La fétichisation, quant à elle, elle vise une personne. Elle consiste à réduire une personne à l'une de ses caractéristiques, celle qui va attirer sexuellement. Donc ça peut concerner une partie du corps, un type de corps en général, ou bien l'identité de genre, sa fluidité, sa non-correspondance avec le genre attribué à la naissance. Dans le cas des filles pas comme les autres, l'aspect fétichisé, c'est qu'elles soient hors normes en raison de leur comportement sexuel. C'est-à-dire que leur intérêt aux yeux des fétichistes, c'est qu'elles soient anormales, étranges, spéciales. Les caractéristiques supposées correspondent à des clichés. La personne, elle est réduite à son originalité, même pas à des traits réels et précis de sa personnalité. Elle est plutôt réduite aux traits qui sont supposés chez les femmes ayant une conduite sexuelle déviante. Bien sûr, j'ai déjà mentionné, les objectifieurs et les fétichistes n'adoptent pas continuellement ce regard-là. Des moments sincères peuvent venir se mélanger avec les moments et les situations malsaines, ce qui est plutôt déstabilisant. Et le problème avec tout ça, c'est qu'être considéré comme une simple expérience, en particulier par une personne avec laquelle on partage de l'intimité, ce n'est pas très agréable. C'est même carrément douloureux. L'effet « je suis un tour de manège sympa avant que les types s'en retournent à leur routine » n'est pas du meilleur effet sur le moral et sur l'estime de soi. On va se faire une petite parenthèse musicale avec « Pourquoi » de Sandy Valentino. Et cette chanson, elle est bien parce qu'elle aide à se rendre compte qu'on a quand même bien progressé sur la conscience des violences et des abus dans le cadre des relations sentimentales. Parce que, cette chanson, elle date de 98, et quand on l'écoute, on capte que ça passerait pas du tout maintenant. Genre, ça passait sur... plein de radios, mainstream, populaire, genre sur Energy, sur Fun Radio, tout ça. Et voilà, je vous laisse écouter.
Don't fail.
c'était la chanson des violences conjugales. Mention spéciale à la partie où elle chante « Il me fait peur, fait battre mon cœur ». Ça évoque bien le rapprochement qui est parfois fait entre l'intensité de l'amour et puis des comportements violents. Voilà, voilà. À présent, on va parler du concept de Dirty Care, mentionné par Elsa Dorlin dans son bouquin « Se défendre, une philosophie de la violence ». En gros, ce qu'elle nous dit, c'est que on consacre plein de temps et d'énergie quand on fait partie de catégories minorisées à accumuler des informations sur les personnes qui ont une place privilégiée. On fait d'eux les objets de notre attention, mais d'une façon contrainte, dans le but d'éviter les coups au sens propre comme au sens figuré. La perception du monde, quand on fait partie des catégories privilégiées, elle est marquée par le privilège, elle empêche l'empathie avec les groupes dominés, c'est ce qu'elle nous dit dans ce chapitre-là du bouquin. Et l'écart de point de vue, ça a pour effet d'invisibiliser les expériences des dominés aux dominants. En parallèle, les personnes des catégories dominées, elles développent un savoir à propos des dominants dans le but de se protéger de leur éventuelle violence. Et tout ce soin qu'on consacre à l'autre pour le connaître, le ménager, éviter d'endurer les conséquences néfastes de sa violence, c'est appelé par Elsa Dorlin le « dirty care ». Ça fait des dominants, des objets de connaissance centraux pour les dominés, plus centraux encore qu'elles-mêmes. Le point de vue du dominant devient plus important pour les dominés que le leur propre et remplace en quelque sorte leur réalité. Ce que nous considérons comme une disposition à se soucier des autres, à leur prêter attention, à en prendre soin, le care en anglais, à les prendre en charge, a été communément théorisé dans toute une tradition de la philosophie féministe, non pas évidemment comme une prédisposition ou une nature féminine, mais bien comme le produit historique d'une assignation prioritaire des groupes minorisés aux tâches de reproduction d'une division sexuelle et raciale du travail domestique, comme de sa libéralisation, par exemple avec les professions du care. L'historicisation de cette division du travail a permis de montrer le type de rapport au monde qu'elle implique, ses implications éthiques, les postures morales qu'elle produit, et de les définir comme des gestes d'attention aux autres qui déterminent une morale du care. Notre objectif est de compléter ces analyses depuis une autre généalogie. Notre hypothèse est la suivante. Le souci des autres advient par et dans la violence, et génère un positionnement éthique bien différent de la seule proximité affective, de l'amour, de l'attention compatissante, de la sollicitude affectueuse, ou de l'abnégation dans les soins les plus éprouvants. Même si de tels soins peuvent susciter chez celles et ceux qui les prodiguent, des sentiments négatifs, bien que toujours mêlés de désir et de répulsion. La violence endurée génère une posture cognitive et émotionnelle négative, qui détermine les individus qui la subissent à être constamment à l'affût, à l'écoute du monde et des autres, à vivre dans une inquiétude radicale, épuisante, pour nier, minimiser, désamorcer, encaisser, amoindrir ou éviter la violence, pour se mettre à l'abri, pour se protéger, pour se défendre. Il s'agit alors de développer une série de raisonnements pour déchiffrer autrui, pour le rendre raisonnable, normal, son action, à déployer des gestes, des attitudes, des actions pour ne pas l'énerver, ne pas encourager, déclencher sa violence, mais aussi de vivre avec des affects, des émotions quasiment imperceptibles et pourtant constants pour s'habituer, s'insensibiliser, se faire à sa violence. Il n'est plus question ici de se soucier des autres pour faire quelque chose qui les aide, les soigne, les réconforte, les rassure, les sécurise, mais bien de se soucier des autres pour anticiper ce qu'ils veulent, vont ou peuvent faire de nous. Quelque chose qui potentiellement nous dévalorise, nous fatigue, nous insulte, nous isole, nous blesse, nous inquiète, nous nie, nous effraie, nous déréalise. Dans ce sens négatif, le dirty care désigne le sale soin que l'on se porte à soi-même, ou plutôt à sa puissance d'agir, en devenant, pour sauver sa peau, les expertes des autres. On a donc une situation où les personnes se mettent entre parenthèses, leur point de vue, leurs besoins, un peu tout chez elles, car elles consacrent plus de temps et d'énergie à penser aux autres, à penser depuis le point de vue de l'autre. L'important, ça va être l'autre, la personne en position de pouvoir, et la connaître et lui porter toute son attention signifie plus de sécurité, au prix de s'oublier en route. En traînant sur internet, je suis tombée aussi sur un article sur le polyamour en rapport avec le confinement. C'était sur Facebook, ouais, que des super plateformes, tout ça. Mais du coup, il y a des pubs qui s'intercalent dans les fils d'actualité. Et du coup, moi, je me coltine ce genre de pubs, des pubs pour des articles des Inrocks, tout ça. Et là, c'était un article des Inrocks sur le polyamour et le confinement. Alors, c'était dans une espèce de rubrique du style « Comment on s'aime de nos jours », tout ça. Et en fait, il y avait marqué en gros le titre de l'article, qui est en fait une citation d'un extrait de l'interview. Et donc, ce qui apparaissait en gros, c'était « J'ai dû choisir avec lequel de mes mecs j'allais me confiner » par Anaïs, 26 ans. Alors, bon, déjà on peut quand même noter que le pluripartenariat présenté, il suit pas le schéma « Un mec et toutes ses copines » ou « Un mec, sa meuf et les plans cul féminins de sa meuf » ou encore « Un mec et sa copine invitent une femme bi de moins de 30 ans pour niquer ». Enfin, on n'a pas ce truc de un seul mec cis par équation. Bon, du coup, ça partait pas trop mal, mais y a vraiment plein de mais. Alors déjà, premièrement, on calque le bon vieux modèle du couple cohabitant sur le pluripartenariat amoureux. On le calque tant bien que mal, hein, parce que bah ça a l'air compliqué quand même, il a fallu faire des choix et tout. Fin. Mais voilà, on le calque quand même. Voilà, ouh, la cohabitation, machin... Deuxièmement, on met en avant une situation qui est assez peu réaliste, en tout cas qui est vraiment pas la plus probable ni la plus fréquente. Et troisièmement, c'est aussi une situation qui, comme par hasard, présente un pseudo-avantage pour la meuf qui choisit, c'est le terme employé. Et bon, j'ai déjà parlé des rapports de pouvoir liés au rôle de genre dans les relations amoureuses, et je vais pas en remettre une couche. Mais le fait que ça soit la situation de la meuf qui soit montrée comme la situation avantageuse, ça aussi, ça ne semble pas coller avec les schémas habituels, ni avec les rapports de pouvoir en place dans les relations affectives. Quatrièmement, depuis tout à l'heure, je dis que la situation est présentée comme avantageuse. C'est parce que le problème, pour moi, c'est plus de donner une grande visibilité à un titre comme celui-là. Je dis pas que le témoignage est faux. Ce qui me questionne, c'est qu'on choisisse de mettre celui-là en avant. Et qu'on le dote d'un titre aussi... Enfin, ça évoque vraiment Princesse Machine qui choisit entre ses multiples prétendants pour que le gars lui masse les pieds à domicile pendant 2 mois, enfin... Les personnes qui relationnent avec des mecs cis hétéros, elles savent ce que ça a de réaliste, tout ça. C'est vrai, ça nous arrive tous les jours. Bon, du coup, choisir de mettre en avant plutôt ça, c'est donner une vision peu réaliste de ce que ça peut être le pluripartenariat pour des meufs. Et véhiculer des idées reçues à propos d'un mode de vie qui est déjà pas mal stigmatisé. Même si oui, c'est vrai, peut-être moins maintenant, mais... Tellement de choses à dire... Mais bon, ce que je remarque, quand même, c'est que moi, perso, spontanément, comme ça, ça m'a un peu foutu les glandes que Anaïs, elle puisse choisir entre ses amoureux et qu'ils aient tous envie de venir se confiner avec elle. Ouais, c'est moche d'être jalouse. Hein. Surtout d'être jalouse de la protagoniste d'un article des Inrocks. Mais ça m'a fait réfléchir. Cette présentation d'une situation qui semble, on va dire, valorisante en plus d'avantageuse pour une meuf, ça va potentiellement faire se sentir naze des personnes qui ont plusieurs partenaires et qui n'ont pas ces possibilités. Pour des raisons de croisement de choix personnels, mais aussi pour des raisons matérielles plus basiques, parce que tout le monde ne vit pas à Versailles. Tout le monde n'est pas apte non plus à partager son espace à temps plein. En tant que meuf, bah, ça va me faire douter de ma valeur et de ma désirabilité en tant que partenaire pour un type 6, comparé à Anaïs qui a l'air tellement super. Et là, le problème, c'est pas le contenu de l'article, qui est payant d'ailleurs, donc ils peuvent bien laisser niquer, je vais pas aller le lire en entier, mais c'est vraiment le titre, l'accroche publicitaire qui apparaît sur l'écran, le « j'ai dû choisir avec lequel de mes mecs j'allais me confiner ». Là, spontanément, ce que j'ai envie de dire, c'est « Ah, pauvre chérie, les types, ils t'aiment tellement que tu as le choix de ton partenaire de confinement ». Et puis je la trouve un peu vantarde, hein, et que quand même, ceux qui n'auront pas été choisis, bah les pauvres, ils vont être tout seuls. Enfin, donc ce titre de merde, la façon dont il est formulé, et ce qu'il met en avant, ça fait appel à mes espèces de bas instincts socialement formatés. Concurrence avec les autres meufs, et empathie uniquement avec les types. Alors qu'en fait, je devrais plutôt avoir envie de soutenir Anaïs face à la fatigue forcément engendrée par ses relations avec des types. Et en vouloir au type de la forcer à choisir, alors que quand même, ils pourraient faire un effort et cohabiter tous ensemble. On arrive à la fin de l'émission, et bon, en cherchant des trucs, des chansons sur les parenthèses, j'ai découvert que bah, y a Anne Sylvestre qui a une chanson qui s'appelle « Belle parenthèse ». Et ça fout grave la chiale, mais c'est beau. Je vous laisse avec ça.
Ça a tout l'air d'un braconnage, ça se surveille au coin d'un bois, ça se souvient des paysages, de tous les parfums d'autrefois. C'est de l'adolescence en fraude qu'on passerait sous le manteau. C'est de la tendresse en maraude, c'est rapide comme un couteau. Bel amour, belle parenthèse, on se fait des nuits en plein jour. Entre deux portes, entre deux chaises, on vit l'aventure à rebours. Ça jongle avec les téléphones, ça prend des airs d'agent secret, ça fait son printemps en automne et son automne au mois de mai. Ça vole une heure à la sauvette et ça en fait l'éternité, ça se bricole des cachettes, ça réveillonne à l'heure du thé. Bel amour, belle parenthèse, on se fait des nuits en plein jour, entre deux portes, entre deux chaises, on vit l'aventure à rebours. Ça prend des trains comme on respire, ça prend des avions par hasard, ça s'écrit pour ne rien se dire, ça a des silences bavards. Ça n'a que des maisons chimères, ça a des chambres de brouillard et des jardins imaginaires pour s'y caresser du regard. Belle parenthèse, on se fait des nuits en plein jour, entre deux portes, entre deux chaises, on vit l'aventure à rebours. Ça multiplie les jours de fête, ça éparpille les saisons, on voit des fleurs à l'aveuglette et pleure parfois sans raison. Ça se méfie des certitudes, ça va sur la pointe des pieds, ça fait voguer les habitudes sur des flottilles de papier. Bel amour, belle parenthèse, on se fait des nuits en plein jour, entre deux portes, entre deux chaises, on vit l'aventure à rebours. Bel amour, si entre deux chaises vous préférez vivre toujours, multiplions les parenthèses, il y fait plus beau qu'au grand jour. Multiplions les parenthèses, il y fait plus beau.